Et une première édition de l'économie en question pour ouvrir une nouvelle année en France. Elle sera donc politique, très politique et pour nous forcément très économique. Nous serons aussi bien sûr amenés à commenter, à expliquer les grandes évolutions dans le monde en faisant appel à la théorie économique, au courant de pensée, à repérer les tendances fortes ici et ailleurs. Et nous serons vigilants sur les programmes de réformes appliqués ou annoncés. Questionner l'économie, la mettre en débat, elle en a bien besoin, et surtout comprendre ce qu'elle a à dire pour notre bien-être commun. C'est toujours notre objectif, et cela bien sûr grâce à nos invités, chercheurs et ou professeurs d'économie. Trois d'entre eux, des habitués d'ailleurs, sont présents aujourd'hui autour de cette première question. Rentrée économique en France, peut-on enfin être optimiste ? Et nous sommes en compagnie, il s'installe, de Julia Cagé, professeure d'économie à Sciences Po Paris, Christian de Boissieu, professeur d'économie à l'Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, et Xavier Timbaud, directeur principal de l'Observatoire français des conjonctures économiques, c'est l'OFCE. Et puis en toute fin d'émission, je leur ai demandé de venir avec un chiffre, histoire de parcourir un peu rapidement le reste de l'actualité. C'est bien l'économie en question, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et bienvenue à tous. Peut-on enfin être optimiste ? Écoutez, si l'on lit la presse économique de ces derniers jours et si l'on suit un peu les déclarations des uns et des autres, pas si facile de se faire une idée. Mais tout de même, il semble que beaucoup d'indicateurs soient au vert. Je vous propose à tous les trois de me donner le rôle de l'optimiste et de voir avec vous si cela correspond à vos données, vos analyses et vos prévisions surtout. Rappelons quand même, et c'est le gouvernement qui l'a rappelé lui à l'issue du premier conseil des ministres ce mercredi, l'économie française maintient une dynamique de croissance et de création d'emplois après s'être matérialisée en 2015. Les dernières données donc dont nous disposons confirmeraient cette tendance favorable pour 2016. Une croissance très forte, on s'en souvient peut-être au premier trimestre, une belle déception quand même au deuxième trimestre. On va peut-être y revenir et expliquer pourquoi, peut-être lié à la situation sociale, mais qui avait donc porté un acquis de croissance, on va également l'expliquer, à 1,1%. Et puis, semble-t-il quand même, des tendances assez bonnes, prévisions donc de 1,5%, ce fameux 1,5% de croissance, tant attendu, car il aurait, on va l'expliquer, des effets également sur le chômage. Premier tour de table, si j'ose dire, qui veut commenter très brièvement ces premières données que je viens de signaler. Julia Cagé.
Non, je ne sais pas si on a des raisons d'être optimiste. Ça dépend de quel point de vue on se place. Si on regarde aujourd'hui le taux de chômage en France, on n'est pas loin de 10%. Enfin, les chiffres officiels nous donnent 9,9%. De facto, il a diminué de 0,3 points au deuxième trimestre 2016. Donc on vient de passer sous la barre, mais c'est un tout petit mouvement de baisse. On est très loin d'une tendance de long terme de baisse du chômage. Donc, on peut toujours trouver des raisons d'être optimiste en se disant, voilà, bon, on est passé enfin sous la barre des 10%, mais de facto, je pense que personne ne peut nous dire dans quelle mesure on ne va pas repasser juste au-dessus de la barre au troisième trimestre de 2016. Donc, on n'a pas de croissance, on a quasiment 10% de chômage,
on a une consommation des ménages... On a un peu de croissance, non ? Je viens de l'indiquer.
Oui, on a très peu de croissance, on a trop peu de croissance. Et surtout, moi, ce qui ne me rend pas vraiment optimiste, c'est que sur le long terme, ou même sur les 2-3 derniers trimestres, on n'a pas vraiment eu un mouvement de redémarrage de l'économie française qui s'est mis en œuvre. Donc, je reste relativement pessimiste malgré tout.
Oui, je vous donnerai en cours de route 2 ou 3 indications qui nous paraissent peut-être plus positives. Par exemple, le logement, par exemple, l'automobile, là, c'est tombé hier ou avant-hier. Par exemple, les consommations des ménages. Mais on va recommander tout cela. Peut-être d'abord nous expliquer, je m'adresse à Xavier Timbaud parce que l'OFCE en a longuement parlé, pourquoi ce ralentissement au deuxième trimestre après un premier trimestre, vous le confirmez quand même, qui objectivement nous a un peu remis le moral plus haut.
Oui, alors quand on analyse la conjoncture, il y a des mouvements conjoncturels avec des variations d'un trimestre à l'autre qui sont parfois spectaculaires. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'elles seront probablement révisées dans le futur. Donc là, on parle sur des chiffres provisoires Et donc, on va faire une analyse, mais à partir de chiffres qui pourront être modifiés, donc qui vont modifier les choses. Alors, dans les explications qu'on peut avancer, il y en a en gros trois. La première, c'est le dispositif d'amortissement accéléré qui devait prendre fin au deuxième trimestre, qui a été prolongé, mais qui devait prendre fin. Et quand on regarde...
Rappelez-nous de quoi il s'agit, amortissement
alors, c'est
accéléré.
C'est un dispositif qui permettait aux entreprises, quand elles font des investissements, de déduire de leurs impôts, de l'impôt sur les sociétés, plus de l'investissement à court terme, et puis ensuite en déduisant moins. Donc ça permet aux entreprises, en quelque sorte, de subventionner leur investissement par une baisse d'impôt. Donc ce dispositif d'amortissement accéléré, il jouait à plein au premier trimestre, il devait s'arrêter au deuxième trimestre, et effectivement, ce qu'on voit, c'est que l'investissement a été très fort au premier trimestre, et un petit
ralenti.
Peu moins fort, ralenti, exactement, au deuxième trimestre. Donc ça, c'est un des premiers éléments qui explique. Bon, alors, le dispositif a été prolongé, mais ça a été annoncé tardivement, donc ça a probablement limité la casse, mais c'est assez traditionnel dans ce genre de dispositif qui anticipe, en fait, l'investissement et qui, du coup, provoque un contre-coup, ensuite. Il y a un deuxième phénomène qui est autour de l'énergie et du climat. Il y a eu beaucoup de consommation d'énergie au premier trimestre à cause d'une fin d'hiver plutôt plus froide que le début de l'hiver. Et donc, du coup, ça a fait un pic de consommation d'énergie qui s'est traduit évidemment par un peu moins de consommation d'énergie au deuxième trimestre et donc qui donne ce mouvement trimestriel. Et puis, troisième point, ça vous a pas échappé. Il y a eu des mouvements sociaux assez importants en France avec des grèves et un conflit autour de la loi El Khomri. Voilà. Donc, je pense que c'est pas la peine de revenir sur tous les événements de ce conflit-là. Mais ce conflit a probablement eu un impact sur l'activité économique en France. Et donc, il participe de cette chose-là. Mais derrière tous ces mouvements, disons, un peu erratiques ou très circonstanciels, la question qui se pose toujours, c'est de savoir, finalement, est-ce que la reprise à laquelle on assiste, parce qu'il y a bien une reprise, mais est-ce qu'elle est faible, faible croissance, insuffisante, enfin bon, on peut mettre tous les qualificatifs qu'on veut, ou est-ce que, c'est la question que vous posez aujourd'hui, est-ce qu'il faut être optimiste, c'est-à-dire se dire, finalement, dans les reprises cycliques, quoi qu'il se soit passé avant, aussi terrible ça a été, quand ça repart, parce que il y a des mouvements d'optimisme cumulatif qui se mettent en place. Et donc, ce deuxième trimestre, il nous embête beaucoup, parce qu'il nous empêche d'être franchement optimiste, en tout cas.
Mais il est vrai qu'il y a des chiffres que l'on n'avait pas vus depuis 2008, depuis 2007, et qu'on met évidemment en avant côté gouvernemental, mais d'un certain analyste aussi. Et Christian de Boissieu ?
Pour moi, la reprise, elle est molle, et elle risque de le rester. Elle est trop molle pour aborder les problèmes ou traiter les problèmes du chômage, parce que le seuil à partir duquel ça devient intéressant, je dirais, c'est plutôt 1,5 ou 1,6. Je pense qu'en moyenne, sur 2016, compte tenu de ce mauvais deuxième trimestre, on va plutôt faire une croissance de 1,3%, autour de 1,3%. Pour faire le 1,5 auquel s'accroche le gouvernement, il faudrait faire en quelque sorte presque 0,6 sur chacun des deux prochains trimestres. C'est pas gagné. Pour l'année prochaine, le gouvernement a affiché 1,7. Pas terrible. C'est pas gagné. Ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que la France s'installe durablement en dessous de la moyenne de la zone euro. Et ça, à mon avis, c'est embêtant. Et en plus des éléments de contexte qui ont été évoqués, je dis un mot du contexte mondial qui est quand même moins porteur qu'il était il y a quelques mois. Alors, le ralentissement chinois, c'est pas nouveau, mais on a une économie mondiale qui continue à croître à un rythme autour de 3%, mais un peu moins que ce qu'on attendait. Et puis, on a des problèmes européens qui pèsent quand même sur la confiance et sur l'investissement. On est en plein brouillard sur le calendrier, sur les conséquences du Brexit, pour prendre un sujet d'actualité de l'été. Et tant que... moi, je suis impressionné, mais défavorablement, impressionné par le fait que, du côté britannique, on se donne le temps. Et aujourd'hui, on parle d'un possible Brexit pas avant la fin 2019. C'est-à-dire que le gouvernement britannique n'est pas pressé d'adresser cette fameuse lettre qui déclenchera la procédure de l'article 50 qui peut durer 2 ans, procédure. Donc ça veut dire que du côté britannique et du côté européen, et je fais pas la liste de tous les problèmes, toutes les incertitudes, je pense que la question, c'est quand même qu'on a certes une petite reprise de l'investissement, mais à mon avis qui n'est pas suffisante pour nous garantir une croissance plus élevée qui permettrait de mordre. Ouais. Je termine sur le chômage. Mais moi, ce qui m'intéresse, et sans démagogie, moi, moi qui suis plus jeune, ce qui m'intéresse dans le chômage, c'est le chômage des jeunes, qui est encore autour de 23-24%, et que là...
Même si là, quand même...
Ouais, mais enfin, c'est trop élevé.
C'est un peu réduit, quand même. Le chef du département de la conjoncture de l'INSEE, hein, puisqu'on est en train de parler de plusieurs données, là, et de plusieurs analyses, je citais l'OFCE, bien sûr, mais en tout cas, la conjoncture de l'INSEE était importante, et elle était attendue, elle est tombée courant août. Il y a évidemment celle de Pôle emploi, et il y a aussi le... On est toujours sur la question du chômage ici, et puis les chiffres du BIT. Sur la nature de la croissance même, le directeur donc du département de conjoncture de l'INSEE nous dit que c'est une nature de croissance qui change, c'est-à-dire les éléments sont surtout, aujourd'hui, les ressorts sont surtout internes. On parlait beaucoup, on en a discuté à très nombreuses reprises l'an dernier, du rôle de la baisse du prix du pétrole, de l'impact de l'action de la Banque Centrale Européenne, etc. Aujourd'hui, nous dit-il, et ça me paraît là encore, je vous dis, je prends le rôle de l'optimiste plutôt positif, il nous dit que ça vient de l'investissement des entreprises, et elle le confirme, et de la consommation des ménages, Julia Gagé. C'est bon ça?
Oui, enfin, si on voulait être pessimiste, on pourrait dire qu'en fait, cette année, nos exportations...
Alors là, il y a un gros problème sur l'exportation. D'accord, on va y revenir. Autre
c'est
chapitre.
Aussi, non, mais je veux dire, c'est aussi non, pour ça que ça vient de l'intérieur, c'est qu'à l'extérieur, ça va pas très bien. Mais c'est vrai qu'on
mais
peut.
Mais ce qu'on peut pas dire à l'inverse que comme ça, voilà, excusez-moi, comme ça va bien à l'intérieur,
ça
on importe.
Une croissance qui peut être auto-entretenue parce que l'emploi redémarre doucement, les ménages consomment plus, les entreprises investissent davantage, s'autofinancent beaucoup plus. De ce point de vue-là, on peut être optimiste. Moi, je voudrais juste revenir rapidement sur ce que vient de dire Christian. De Boissieu concernant le Brexit. Il y a le Brexit, mais il n'y a pas que le Brexit. Je veux dire, on a quand même l'Italie qui est la quatrième principale économie européenne et qui a 360 milliards d'euros de créances douteuses sur ses banques. C'est un cinquième du PIB italien. On ne sait pas du tout comment on va pouvoir s'en sortir, surtout que l'Europe, au cours des dernières années, s'est complètement lié les mains. Donc, il faudrait réinjecter de l'argent public dans les banques italiennes. On s'interdit de le faire. Donc là, on a une crise qui potentiellement peut nous tomber dessus du jour au lendemain. L'Espagne, hier, vient encore de décider de ne pas se doter d'un gouvernement. Donc, on a une autre économie importante de la zone euro qui n'a plus de gouvernement depuis plus d'un an. La situation en Grèce est catastrophique. On continue à les laisser gérer seuls toute la crise des migrants alors que l'économie ne redécolle pas. Ils ont un montant de dette qui ne cesse de s'accumuler et l'Europe ne fait absolument rien pour l'effacer. Donc, on va se retrouver à un moment donné, soit ce trimestre, soit au début de l'année 2007 avec une nouvelle crise grecque sur les bras. Donc en fait, on peut être optimiste en se disant heureusement que la croissance française maintenant est interne et s'auto-entretient en France parce que pour
s'auto-entretient tout à fait, c'est
sur le
terme.
Redémarrage au niveau de l'Europe, ça va être dangereux. Et surtout, moi je suis plutôt quelqu'un de fondamentalement optimiste en général, donc j'ai vraiment pas envie de jouer le prophète de malheur, mais je veux dire se réjouir aujourd'hui du redémarrage de l'économie, c'est un peu faire la campagne préélectorale de François Hollande qui a promis qu'il ne se représenterait que s'il y avait un inversement de la courbe du chômage. Donc il s'accroche au moindre chiffre pour dire voilà, ça redémarre. Le problème, c'est qu'à partir de là, on prend pas les véritables problèmes à bras-le-corps. Et je pense qu'il y a des problèmes de politique économique, il y a des problèmes de relance, il y a des problèmes de cadre européen qui doivent être mis sur la table cette année en prévision de la campagne de 2017. Et c'est plutôt à ça qu'il faut s'attaquer qu'aux quelques frémissements positifs de l'économie française.
Et ça, comme vous dites, vous ne le voyez pas pour l'instant, Xavier Timbaud.
Oui, enfin, je souscris à ce que vient de dire Julia Cagé, même si elle a probablement une présentation sombre. Enfin, et en même temps, il y a effectivement tout un tas de raisons d'être inquiet. Et c'est important d'être inquiet parce que ce contexte européen est effectivement extrêmement préoccupant. Ceci étant dit, je pense qu'on peut quand même un tout petit peu...
On commence même à parler de l'avenir de l'euro, ce qui est quand même une chose qui était impensable il y a encore quelques années.
Et on évoque effectivement les scénarios probables d'éclatement de l'euro, ce qui est une perspective à la fois nouvelle et assez effrayante. Mais dans ce contexte-là, je pense quand même qu'il faut regarder la situation de la France avec un tout petit peu d'objectivité et se dire que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle que l'économie française soit pas dans un état désespérée et aussi désespérée qu'elle a pu être par le passé, et en particulier de voir que dans la dynamique de l'économie française, même si c'est une dynamique qui est plutôt molle et qui tarde à émerger, il y a quand même une dynamique de rétablissement après la crise. C'est assez important parce que, encore une fois, dans la campagne électorale, on va avoir des discours qui vont dramatiser la situation française en invoquant la nécessité d'un choc majeur pour sortir de l'impasse l'économie française, mais je pense que le débat devra peut-être plutôt être sur sortir l'Europe de l'impasse et pas forcément la France de l'impasse. Alors, justement, quelques points positifs. On a parlé du marché du travail, de cette inversion, cette toute petite inversion de la courbe du chômage. C'est vrai, elle est faible, mais depuis 4 trimestres, l'économie française crée des emplois. 40 000 emplois sont créés dans le secteur marchand en France, chaque trimestre, et ce depuis 4 trimestres, donc on est à 160 000 emplois créés dans le secteur marchand. C'est plus que l'augmentation de la population active, donc on est à ce point où il y a une faible productivité aujourd'hui, ce qui sur le long terme n'est pas une bonne nouvelle, mais cette faible productivité se traduit par une croissance plutôt riche en emplois, qui permet d'être plutôt optimiste sur la suite des événements en matière de chômage. Alors, ce n'est pas des évolutions très fortes. En gros, depuis 4 trimestres, l'économie française a créé 100 000 emplois de plus que les afflux de population active sur le marché du travail. 100 000, ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même une dynamique qui est plus positive. Et il y a un deuxième point qu'il faut pointer, c'est la situation des...
Je regarde l'amour de vos deux confrères, mais ben voilà.
Non, mais c'est des éléments qui sont... Surtout l'économie française se caractérise aujourd'hui par des créations d'emplois. Et la baisse du chômage n'est pas liée à des retraits d'activité. Ça, c'est assez important, parce que, par exemple, en Espagne...
Ni au découragement, je l'ai lu aussi, ça, c'est un point très important.
Ni au découragement.
Deux raisons de chômage, c'est effectivement la demande d'emploi pas satisfaite et le découragement. Voilà. Et là, le BIT le confirme, ce n'est pas ce symptôme-là que l'on observe.
En Espagne, il y a une amélioration du marché du travail avec beaucoup de chômeurs découragés.
Heureusement que nous ne sommes pas d'accord sur tous les points. Moi, je trouve que Xavier...
Un point positif, moi, après.
Oui, il y en a d'autres, Xavier, on les attend aussi. Réaction de Christian, pour l'instant.
Je suis moins optimiste que... Moi, je suis comme Julia, je suis plutôt de nature optimiste. Pour moi, le verre, il est plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Mais je continue à penser qu'on va avoir des chiffres mensuels du chômage qui vont être très volatiles, en yo-yo. Et donc, la fameuse inversion qui est au cœur du débat politique français depuis trop d'années, d'une certaine façon, on verra, mais je pense que c'était dangereux pour François Hollande de lier sa décision politique.
Quand on regarde les chiffres au sens du BIT, et j'ai posté d'ailleurs sur Twitter un graphique qui reproduit le graphique, et donc qui est une source plus fiable, moins volatile et assez différente de celle des demandes d'emploi en fin de mois publiées par Pôle emploi, on s'aperçoit quand même qu'il y a nettement une stabilisation du taux de chômage et même une légère tendance à la baisse. Alors elle est très légère, mais on n'est pas dans un schéma volatile où on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a une inflexion assez nette de ce point de vue-là.
Ben, j'espère que Xavier a raison, mais moi je reste sceptique.
J'invite juste
je dis simplement, ce qui m'intéresse dans le débat actuel, c'est la question des marges de manœuvre. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est ce qu'on peut faire. Et là, il faut travailler effectivement sur les deux étages de la fusée. Il y a l'étage européen et l'étage national. Sur l'étage européen, il y a tout un débat nécessaire. Je parlais du Brexit parce que c'est un exemple qui m'a frappé.
Oui, c'est une grande inconnue
mais
en
c'est
plus.
Pas, ouais. Je suis d'accord avec Julien, c'est pas du tout le seul sujet européen, il y en a bien d'autres. Bon, je dis simplement, donc il y a un débat sur la relance de l'Europe, la relance politique, institutionnelle de l'Europe. Bon, ça va être un des sujets, j'allais dire, des prochains mois, en Europe et également en France. Et puis, il y a, très concrètement, la question de savoir si au niveau européen, il ne faudrait pas doper un peu ce qui a été lancé, à mon avis, sans doute de manière trop modeste et trop lente. Je fais référence au plan Juncker. Il y a de l'épargne en Europe, il y a des liquidités. Je pense que les 315 milliards sur 3 ans d'euros, investis d'ailleurs dans des sujets qu'il faut traiter, qui s'appellent les PME, qui s'appellent la recherche et développement, qui s'appellent les infrastructures. Quand François Hollande dit qu'il faudrait doubler le plan Juncker, je pense qu'il a raison sur le fond. Est-ce qu'il va être suivi par les autres pays? J'en sais rien. Mais c'est un débat. Ça, c'est le niveau européen, en sachant que du côté... La Banque Centrale Européenne, moi j'ai soutenu la BCE jusqu'au mois de mars dernier, là je pense qu'on est rentré dans une phase où plus on en rajoute une couche dans le sens de taux négatifs, d'injection de liquidités, moins on est sûr de l'efficacité de ce qu'on fait. Il y a un vrai problème d'inefficacité de la politique
pour
monétaire.
Pour vous, ça devient dangereux.
Alors,
pour vous.
Le débat, et je termine là-dessus, c'est que si du côté monétaire, il n'y a plus grand-chose à attendre, il faut maintenant laisser faire... ce qu'on a fait, laisser agir ce qu'on a fait. Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre du côté budgétaire et fiscal? Alors, du côté français, il peut y avoir des débats. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais le débat qui est posé, c'est est-ce que cette mesure qui a été annoncée de baisse de l'impôt sur les sociétés à 28%, je pense que ça va plutôt dans le bon sens. C'est un peu tardif. Et comment on la finance? Bon, et du côté allemand, pour revenir sur des sujets européens, il est clair que est-ce qu'il ne faudrait pas que l'Allemagne utilise ses marges de manœuvre budgétaires? Voilà, c'est il y a ce genre de débat, à mon avis, qui est aussi posé à l'occasion de la rentrée.
Interdépendance, on l'aura compris, avec le reste de l'Europe. C'est évident, en attendant les autres points positifs de Xavier Timbaud, je vois Julia Cagé veut réagir.
Non, mais sur l'Allemagne, et en fait, ça se pose indirectement sur la France, et à partir du moment où la politique monétaire ne fait plus son effet, au-delà de la seule politique budgétaire, et la question elle est vraiment au centre du débat, je pense, qu'on a eu autour de la loi travail. Est-ce qu'il ne faut pas une politique de relance salariale? C'est-à-dire que pour relancer la consommation et pour relancer l'emploi, dans un contexte où en fait la France avait retrouvé, même si là, ce trimestre, ses exportations se sont effondrés, mais pour d'autres raisons, une certaine compétitivité. Est-ce qu'il ne faut pas relancer la demande par des augmentations salariales en France, mais notamment en Allemagne? C'est-à-dire qu'on a un pays, l'Allemagne, qui a accumulé des excédents historiquement jamais vus. Alors on peut dire que c'est très bien, mais ce que ça veut dire fondamentalement en termes de déterminants macroéconomiques, c'est qu'on a un pays qui produit beaucoup plus qu'il ne consomme et qui ne cesse d'épargner. Donc à un moment donné, l'Allemagne peut absorber l'ensemble de l'épargne européenne et vendre ses produits à toute l'Europe et ne rien consommer. Mais vu du point de vue européen, c'est pas quelque chose qui est soutenable à long terme. Donc je pense qu'on a vraiment des débats de fond à avoir sur ces questions-là et qu'au contraire, les seules réponses qui sont apportées aujourd'hui dans le débat, et c'est ce qui a été autour de la loi travail, c'est au contraire, il faudrait précariser davantage les travailleurs, reflexibiliser le marché du travail, alors que toutes les études montrent que la flexibilisation du marché du travail, c'est pas ça le principal facteur qui sert à réduire le chômage. Et c'est là où je pense que fondamentalement, ce dont il ne faut pas débattre, c'est les frémissements de l'économie, mais il faut débattre des vraies orientations qu'on veut donner sur le long terme, d'une part à la France, mais surtout à l'Europe, parce qu'en fait, c'est la bonne santé de l'Europe qui déterminera la bonne santé économique de la France.
Ouais, il est frappant comme vous faites tous les trois, le lien, en tout cas, certainement Julia Cagé, Christian de Boissieu, avec la situation européenne. Xavier Timbaud, pour les dernières minutes, retour encore sur les points plutôt favorables que vous décelez quand même à l'OFCE. Vous
en avez, oui, alors, vous en avez isolé plusieurs. C'est intéressant la proposition d'une relance salariale. Alors, si j'ai bien compris, c'est quand même plutôt plus en Allemagne qu'en France. C'est effectivement, quand on regarde les chiffres, en particulier allemands, ça tombe un peu sous le sens. Maintenant, quand on écoute les Allemands, et il y a plutôt un consensus en Allemagne sur cette question, eux, ils y sont radicalement opposés. C'est-à-dire qu'ils considèrent que l'Allemagne doit épargner parce qu'elle doit préparer le vieillissement de la population, la faiblesse de la productivité, elle doit réduire sa dette publique, et que c'est pas les autres pays qui doivent indiquer à l'Allemagne comment elle doit utiliser son argent. Après tout,
l'Allemagne est bien contente de l'indiquer à la Grèce ou à un certain nombre d'autres pays.
C'est exact. Donc,
ça n'est pas faux.
Je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais c'est vrai que quand même, du point de vue allemand, je pense que les choses sont pas si simples. Alors, du point de vue français, le point positif que je voulais souligner, c'est qu'il y a un gros effort qui a été fait. Alors, peut-être qu'il était démesuré, peut-être qu'il n'était pas dans le bon timing, mais il a été fait en tout cas pour, par tous les moyens, essayer de rétablir le taux de marge des entreprises. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le taux de marge des entreprises a effectivement été rétabli. La mauvaise nouvelle, c'est que ça a coûté très cher.
Le disent.
C'est le CICE, le pacte de responsabilité. C'est cette politique fiscale que chacun d'entre nous peut constater, dans lequel il y a une augmentation des impôts sur les ménages et où il y a eu une baisse des impôts sur les entreprises. Alors, du point de vue des entreprises, en fait, cette baisse, elle a fait suite à une hausse, donc ça revient à neutraliser. Mais ça veut dire que la majorité de l'effort fiscal qui a été accompli, en fait, non pas simplement depuis François Hollande, mais même depuis le début de la crise, depuis Nicolas Sarkozy, la majorité de l'effort fiscal, il a été fait par les ménages et très peu par les entreprises. Le taux de marge des entreprises aujourd'hui se redresse. J'ai encore posté un graphique sur Twitter qui l'indique. Quand même une donnée intéressante. Alors, est-ce que c'est le moment de faire une relance salariale en France, une fois que ce taux de marge des entreprises, qui est passé par un point très bas, et y compris en comparaison avec les autres pays européens, se redresse? Est-ce que c'est le moment de le dégrader à nouveau? Ou est-ce qu'il faut laisser s'enclencher la logique de Schmitt? Le problème, c'est quelle est sa validité scientifique?
Oui,
c'est le problème.
Ça n'a jamais été vraiment testé.
Mais la logique du théorème de Schmitt, c'est-à-dire que on fait des profits, et puis ensuite on a des investissements, et puis ensuite on gagne en compétitivité, et ensuite on fait des emplois et on distribue des salaires.
Les fameux emplois de demain.
Le problème, c'est qu'on s'est engagé dans cette voie-là depuis maintenant près de 5 ans. Donc la question est de savoir...
Justement, on va débuter un nouveau quinquennat.
Non mais c'est une question extrêmement importante, c'est-à-dire quel est le bilan qu'on fait de cette politique-là ? Est-ce qu'on décide de l'arrêter ou pas ? Ou est-ce qu'on dit c'est trop tard pour l'arrêter, maintenant il faut continuer dans cette logique ou l'aménager ? Voilà, mais il faut faire ce débat et ce bilan sur la base de ce qui s'est passé, sur la base de ce qu'on peut en juger de correct et de pas correct. Et des perspectives et des possibilités qu'il y a devant nous.
Beaucoup de questions ouvertes. Christian de Boissieu,
je voudrais dire rapidement conclure. Deux choses. La première, c'est qu'effectivement, nous parlons des conditions de la relance de l'Europe. À la fois, d'ailleurs, sur le plan, il y a un problème institutionnel. Et puis, il y a un problème, j'allais dire, fonctionnel. Qu'est-ce qu'on fait à court terme en termes de politique économique et de coordination des politiques? Mais je pense qu'une des conséquences de l'arrivée du Brexit, c'est qu'il faut faire monter en régime, malgré leur fragilité actuelle, des pays comme l'Italie et l'Espagne dans le débat européen pour dépasser vraiment cette affaire de couple franco-allemand qui peut nous bloquer aujourd'hui sur un certain nombre de sujets. Deuxième point, j'ouvre encore un peu plus la fenêtre. Nous sommes à la veille de l'ouverture du G20 en Chine. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a deux sujets qui vont dominer le G20, apparemment. Il y a le problème de l'économie mondiale et de la relance de l'économie mondiale.
Et de la déflation,
voilà, etc. On va voir ce que disent les Chinois qui sont en ralentissement. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire là-dessus. Et puis un deuxième sujet. Nous retrouvons aujourd'hui au moment où la Chine annonce qu'elle vient de ratifier la COP21, l'accord de Paris.
Enfin,
les États-Unis. Alors qu'avant, les États-Unis vont faire la même chose.
Enfin, on en attend beaucoup d'autres.
Alors qu'hier, avant cette nouvelle, il n'y avait que 25 pays qui avaient ratifié l'accord. Et on était très embêtés à quelques semaines de la COP22 de Marrakech. Je voulais ouvrir la fenêtre sur ces deux perspectives.
Eh bien, merci à tous les trois pour vos éclairages. On a lancé autant de sujets, je crois, que nous aurons à traiter au cours de cette année, à commencer d'ailleurs, vous l'avez raison, Christian de Boissieu, par le G20 et bien entendu par l'Europe. Je voudrais qu'on revienne sur cette question de l'euro. Avez-vous repéré que Joseph Stiglitz, le prix Nobel, vient d'écrire un livre tout à fait circonspect sur l'euro alors qu'il l'avait plutôt soutenu. Là, il est extrêmement pessimiste. Ça m'a beaucoup frappé personnellement. On y revient très très vite pour l'économie en question et je voudrais qu'auparavant, vous nous donner à chacun le chiffre avec lequel vous êtes venu, Julia Gagé, le vôtre.
73,9 millions d'euros. C'est le prix 9. Qu'a déboursé un armateur multimillionnaire grec pour racheter une chaîne générale nationaliste de la télé grecque. Donc voilà, la Grèce en est arrivée à un point où elle doit vendre à des milliardaires en quête de pouvoir et d'influence ses chaînes de télévision pour réduire son déficit budgétaire et faire plaisir à l'Allemagne qui ne veut pas qu'on lui dise quoi faire de son argent.
C'était le chiffre de Julia Cagé. Merci beaucoup. Xavier Timbaud, le vôtre ?
Alors le mien c'est 10. C'est le rapport de prix entre les seringues auto-injectables d'adrénaline qui sont vendus en France sous la marque Anapen et aux États-Unis EpiPen. Cette seringue, elle coûte à peu près 35 € ou 30 € en France et 300 €, un peu plus de 300 € aux États-Unis. Il y a eu une audition au congrès de la firme pharmaceutique Milan cet été aux États-Unis, dans lequel ceci est un scandale. Alors, le chiffre d'affaires de Milan sur les seringues auto-injectables d'adrénaline, c'est 1 milliard de dollars. Donc, c'est quand même un marché considérable. Pour vous indiquer à quoi ça sert, c'est devenu le médicament de référence dans le traitement d'urgence des chocs anaphylactiques qu'on a en cas d'allergie. Et la prévalence de l'allergie, en particulier chez les jeunes enfants, est tout à fait considérable. Elle atteint 20%. Donc c'est devenu une dépense considérable. Donc vous imaginez, il faut que les parents dont les enfants sont allergiques aient une seringue d'EpiPen, $375, en permanence sur eux. En plus, cette seringue, elle est périmée au bout d'un certain temps, donc il faut qu'ils la renouvellent. Et voilà, c'est un scandale. Alors, c'est aussi assez intéressant de voir la différence des systèmes de santé. La raison pour laquelle on est arrivé à ce prix aux États-Unis est assez spectaculaire. Milan n'a pas fait le produit, il a racheté la firme qui l'a fait. Et en 10 ans, il a multiplié par 6 le prix de ce produit, profitant d'une situation de monopole et de cette demande accrue suite à la prévalence des allergies.
C'est QFD. Merci Xavier Timbaud. Le chiffre de Christian de Boissieu ?
7,5%. 7,5%, c'est la croissance officielle de l'Inde. Quoi qu'il arrive, au fond, dans le reste du monde, c'est ça qui m'impressionne. On voit une sorte de résilience de la croissance indienne. Cette année, c'était une demi prévue, 7,5% l'année prochaine. Alors, il y a deux raisons. Soit ils sont effectivement résilients, ils résistent à ce qui se passe dans l'économie mondiale, soit il y a un problème avec les statistiques indiennes, soit, troisième hypothèse, il y a un cumul des deux raisons.
Allez, la vôtre.
Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a quand même aussi une assez grande résilience de l'économie indienne. On l'avait déjà vu en 1997, au moment de la crise asiatique.
Merci Christian Boissieu, que l'on vient d'entendre, Julia Cagé également et Xavier Nimbault qui étaient avec nous ce matin. On se retrouve bien entendu samedi prochain. Salut à notre équipe, on est content d'accueillir Laetitia Koya qui va désormais réaliser notre émission chaque semaine. Elle était aujourd'hui avec Pierre Faucillon et à suivre le journal avec Anne Fauquemberg. Très bonne journée à tous.